Bonsoir, Aude Lavigne. On vous retrouve lundi à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, la littérature.
Ce soir, Philippe Chevillier et Daniel Martin se font face à notre sommaire Daddy Love de Joyce Carol Oates. Il y a mieux à vivre de Bernard Markowitz. Nous évoquerons aussi plus rapidement Souviens-toi de moi comme ça de Brett Anthony Johnston et Les gens heureux n'ont pas d'histoire d'Héloïse Lièvre. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner. Grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le 31e Festival international de mode et de photographie à hier, qui se déroule du 21 au 25 avril à la Villa Noailles. Enfin, nous avons rendez-vous avec l'écrivain et critique Pierre Jourde, qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouveau roman de Joyce Carol Oates, publié en France, Daddy Love, publié aux éditions Philippe Ray, dans une traduction de Claude Seban. La romancière américaine de 77 ans qui ne laisse pas de me sidérer par le rythme et la qualité de sa production. Je sais que je me répète, mais quand même, oui, je reste stupéfait par l'abondance de ses publications, mais aussi par le fait qu'à chaque fois, je me dis que peut-être ce coup-là, le niveau sera moindre. Mais il faut bien dire que toutes ces dernières années, quelle que soit la veine dans laquelle Joyce Carol Oates s'écrit, elle me laisse pantois. J'ai du mal à lâcher ses livres quand je les commence. On a des romans noirs, des essais, des romans gothiques, des nouvelles, de la poésie, des livres pour enfants, des romans sociologiques sur l'Amérique contemporaine. Elle ne s'interdit aucun registre. D'ailleurs, le seul que je ne connaisse pas, je profite que Philippe Chevillier soit là, c'est finalement celui du théâtre. Il y a une seule pièce de théâtre de Joyce Carol Oates traduite en français, donc j'imagine qu'elle avait dû être montée en France. Vous l'avez déjà vue, vous, sur scène ?
Elle en a écrite 4 ou 5 apparemment, publiées.
Même plus que ça, hein, je crois, même peut-être une dizaine.
Peut-être même, ouais. Et moi j'ai aucun souvenir d'avoir vu une pièce de Joyce Carol Oates au théâtre. Ouais. Peut-être que c'était sous un pseudo.
Non, mais elle a signé des pièces de son nom. Alors, peut-être que c'est le genre où elle n'excelle pas, allez savoir, mais je serais quand même curieux un jour de voir un metteur en scène monter Joyce Carol Oates. Bon, je reviens à Daddy Love. En fait, un roman qui a été écrit entre Mud Woman et Carthage, qui ont été publiés précédemment chez Philippe Ray, mais qui nous arrive après Carthage. Bon, bref. Ça, c'est peu importe. Le sujet, le kidnapping d'un enfant de 5 ans, Robbie, par Chet Cash, un pasteur qu'on va découvrir aimé de toute sa communauté et qui renouvelle régulièrement ses proies puisqu'il ne supporte pas bien qu'elles atteignent l'âge de 11 ou 12 ans. J'aime assez régulièrement dans cette émission lire le début des livres au programme de la dispute pour nos éditeurs. Cela m'a évidemment paru inapproprié pour Daddy Love parce qu'il se trouve que les 4 premiers chapitres sur les 30 premières pages sont quatre versions du même événement, l'enlèvement de Robbie. On n'est pas dans l'exercice de style. Il me semble que ce début qui semble bégayer, c'est vrai qu'on est surpris quand on tourne les pages, mais au contraire, et voilà, et c'est le génie pour moi de... Pardon, je m'avance sur vos propos, mais de Joyce Carol, ça m'a plongé dans une sorte de tourbillon. J'ai été pris par cette angoisse, cette horreur, ce sentiment de suffocation. Enfin, j'ai l'impression d'être dans l'esprit perturbé, on le comprend, par cette mère qui voit à la sortie du centre commercial son enfant lui être dérobé. Bon, début magistral, mais ça, c'est moi qui donne mon avis, mais on est là pour vous écouter. Philippe Chevillé, pour commencer.
Oui, alors bon, il faut quand même le dire, c'est quand même un livre atroce, c'est-à-dire que je pense que c'est fortement...
Éprouvant, vous voulez dire.
Éprouvant, fortement recommandé aux insomniaques, au moins ils sauront pourquoi ils ne dorment pas. Un livre atroce, alors on pense, en connaissant la thématique, ce prédicateur psycho-killer qui enlève les petits-enfants plutôt de 5-6 ans, qui les viole, qui les réduit en esclavage, et qui, arrivé à l'adolescence, les élimine et les remplace... Et on pense qu'on va avoir là, comme le roman est court en plus, une espèce de document ultra-violent, et ça l'est. Mais on est surpris effectivement d'emblée, moi j'ai eu la même réaction, par le fait que ça commence vraiment comme un livre, comme de la littérature. On a même ce qu'on peut voir parfois au cinéma avec trois versions, en fait trois versions et demie, parce que la quatrième n'est pas tout à fait une version, de cet enlèvement, et qui effectivement n'est pas d'ailleurs, quand vous dites c'est pas un exercice de style, c'est d'ailleurs toujours la mère qui plus ou moins le raconte, et qui repasse le film dans sa tête et qui se dit mais comment j'aurais pu éviter ça peut-être, comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, et du coup ça plonge effectivement dans une espèce de transe un peu littéraire, et après on est embarqué dans le livre. Donc c'est pas seulement pour raconter un fait divers de façon romanesque et pour dénoncer quelque chose. Bon, aucun détail vraiment n'est épargné. On suit le gamin dans son enfer. On a aussi en contrepoint donc les réactions de la famille qui évidemment détruite d'emblée. D'ailleurs, l'atrocité, elle va jusque-là. C'est-à-dire que la mère est, on le sait dès les premiers chapitres, est même renversée par le
quasiment laissée pour morte.
Est quasiment laissée pour morte. Donc elle est détruite moralement et physiquement. Après, on se dit où tout cela va nous mener, parce qu'au fond, cette énumération d'horreur, c'est pas la première fois qu'elle en fait dans ses livres. Joyce Carol Oates, parfois, c'est quand même assez cogné. Et puis, très vite, j'ai été pris par ce côté. On a l'impression d'un livre de colère, c'est-à-dire que à la fois elle dénonce la folie d'une certaine de l'horreur de ces psycho-killers, mais aussi la folie d'une certaine Amérique où l'on voit un prédicateur, un homme de religion itinérant, arriver à amadouer absolument tout le monde, à tromper absolument tout le monde. Il séduit les femmes, il séduit. Alors en plus ces ouailles, ce sont des pauvres Afro-Américains qui l'écoutent comme le bon Dieu. Et de voir comment la religion rend aveugle aux États-Unis au point qu'on ne se rend pas compte que ce type qui se balade avec des gamins qui changent en plus tous les 5 ou 6 ans est en fait un meurtrier. Donc il y a cette dimension-là qui m'a frappé. Et puis, dernière chose, mais on en reparlera, c'est évidemment ce qu'elle raconte sur le syndrome de Stockholm, sur le fait qu'un enfant puisse... être dans les raids de son bourreau et ne pas arriver à en s'en sortir. Et ça, c'est la partie la plus dure, mais la plus remarquable sans doute du livre pour moi.
Voilà. Pas la moins dérangeante, oui, en tout cas. Daniel Martin, première impression.
J'ai une égale admiration pour ce livre, une fois de plus, très surprenant, parce que à l'automne, on a lu un livre magistral qui était ce fameux Carthage, et qui était d'une écriture également tout à fait remarquable. C'est-à-dire un livre qui aurait pu être d'une qualité assez moyenne par l'écriture, elle en faisait un très grand livre. Là, effectivement, il y a cette répétition de la scène initiale, et je trouve que ce thème de la répétition et de l'obsession est présent à tous les niveaux. C'est-à-dire que cette mère est perpétuellement hantée de cette scène où l'enfant est enlevé sous ses yeux, et elle se demande toujours où est sa faute et ce qu'elle n'a pas fait. Et l'obsession est aussi dans les rituels de cet homme pour domestiquer au fond ses proies et les acclimater comme ça. Et donc c'est une thématique permanente. Mais moi, beaucoup plus qu'atroce, j'en j'emploierai le terme de trouble. Je trouve que c'est un livre extrêmement troublant et je le délocalise assez volontiers. Alors, on est en plein dossier pédophilie en milieu ecclésiastique. Je le délocalise assez volontiers. De ça, je trouve que c'est plus à la nature humaine qu'elle s'intéresse. Et au fond, dans ce livre, elle croise des thématiques qui sont communes avec celle d'Olivia Rosenthal sur la question de la domestication. Comme ça, comment on impose à quelqu'un une vie dont il ne veut pas. Et il y a des choses qui sont très 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 fortes. Et ce que je trouve étonnant, il y a énormément de détails qu'on ne peut pas dire pour pas gâcher la lecture. Mais ce qui est absolument formidable, c'est la fin. Juste deux choses. Cette mère, lors de l'enlèvement, est laissée pour morte et elle est défigurée. Or, à la fin, l'enfant, il a le choix entre une mère qui ressemble à une créature venue de l'au-delà, enfin, une sorte d'alien, et ce pasteur qui a l'air plutôt avenant et plutôt plaisant. Et il y a quelques phrases comme ça, des commentaires, par exemple, de la presse, qui ne comprend pas pourquoi cet enfant n'a pas réagi, n'a pas essayé...
Oui, parce qu'il faut dire qu'on se sent trop déploré, et ce n'est pas les enfants enfermés dans les caves. Hein. Comme l'a dit Philippe, c'est l'enfant, il va à l'école, il est connu de tous, il a la capacité, je ne dévoile pas trop en disant ça, de dire sa condition et de s'enfuir.
C'est totalement de l'asservissement, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans cette notion.
Mais, les médias lui reprochent, ne comprennent pas.
Lisant ce livre, je repensais à tout ce travail qu'a fait il y a très longtemps une femme remarquable qui s'appelle Dorothy Johnson, qui a beaucoup écrit sur la frontière entre les colons et les Indiens. Parce que à cette frontière-là, bien que mouvante, il y avait énormément d'enfants occidentaux qui étaient enlevés par les Indiens et élevés par eux. Et il y avait un grand étonnement quand on allait sauver enfin ces personnes après des années. C'est des personnes qui ne se reconnaissaient pas dans le monde blanc dit civilisé et qui n'avaient qu'une hâte, c'est de retourner de l'autre côté. Et je trouve qu'alors chez Dorothy Johnson, ça repose sur des éléments de culture, etc., qui sont d'une autre nature que celle-ci. Mais je trouve que là, cette frontière, là, on la retrouve aussi. Et je trouve que ce sont des choses qui travaillent quand même l'Amérique en permanence.
Philippe Chevillier.
Non, mais c'est un petit peu ce que je... encore une fois, je pense qu'il était utile qu'on parle du premier degré de ce livre, parce qu'effectivement, le deuxième degré qui se dégage, et qui est d'ailleurs dans la progression de l'histoire, c'est bien ce que vous dites. Mais il y a toujours quand même une dimension politique, je trouve, chez Jessica Orlot, parce que, par exemple, à un moment donné, pour aller dans le sens de la part, je crois que c'est un speaker de radio, une radio conservatrice, qui ironise sur le fait que, finalement, un enfant enlevé, il a peut-être eu des parents qui n'étaient pas très bien, il a peut-être trouvé un nouveau père beaucoup mieux en étant kidnappé, et à ce moment-là, Le kidnappeur lui-même rigole en entendant la radio. Donc c'est vraiment cette Amérique quand même soi-disant puritaine qui permet ce genre de choses, qui est quand même dans le viseur de Jessica Orlot. Après, ce qui est certain, c'est cette façon qu'elle a de... c'est pas seulement d'ailleurs de poser le problème, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on suit le gamin, on comprend en fait. Elle arrive à nous faire comprendre ce phénomène d'esclavagisation et le fait que ça soit consenti à un moment donné. C'est ça qui est très fort et qui est très troublant, cette soumission.
Le titre était déjà pris, mais ça aurait été un bon titre.
Soumission consentie, enfin à moitié, parce qu'on voit aussi comment l'enfant se rebelle en composant une personnalité schizophrène. Donc on a vraiment tous les ressorts, et y compris d'ailleurs, même si c'est fait de façon beaucoup plus rapide, on a quand même aussi les ressorts de la déstructuration de la famille entre le père et la mère, qui est aussi... Il n'y a pas tellement de pages dessus, mais on comprend comment la catastrophe arrive au niveau familial aussi, au niveau du couple.
Daniel Martin. Oui, tout à fait d'accord sur les intentions de Jessica Orlot à un niveau politique et à un niveau d'attaque comme ça. C'est absolument présent. Mais c'était simplement pour légèrement délocaliser ce livre d'une actualité immédiate et le porter là où il est, c'est-à-dire à ce très haut niveau. C'est-à-dire c'est vraiment la nature humaine dont il est question, le plus troublant de la Terre, et que ça soit sur des questions de sexualité, sur des questions de politique. Enfin, on assiste à des spectacles aux États-Unis tout de suite qui peuvent être... C'est-à-dire, on a cette impression de perte de repères. et on le retrouve là exactement, c'est-à-dire que un faux semblant peut s'imposer comme étant un repère.
D'autant que l'assassin, le psycho-killer en question, est un drôle de mélange, parce qu'à la fois il a un côté, il aura un petit côté un peu Jésus-Christ superstar, Baba cool. On a l'impression que l'ogre qu'elle invente, en partie, parce que c'est peut-être encore une fois tiré de faits divers qu'elle a connus à Detroit, mais que l'ogre qu'elle invente a un look vraiment un mélange de type plutôt sympa, encore une fois un peu hippie, séduisant avec les femmes. C'est un ogre moderne.
Et ça fait peur. C'est pas Mitchum dans La Nuit des Chasseurs.
Il est donné séduisant pas qu'avec les femmes, d'ailleurs. Non, avec tout le monde. Comme oui, avec oui. les femmes. Oui, enfin, oui. C'est vraiment un séducteur. Et il y a cette question qui est dans le livre, qui est très présente, de savoir pourquoi l'enfant n'a pas essayé s'échapper, de s'évader, etc. Ça, c'est une question. Mais il y a aussi cette question qui est permanente. C'est comment se fait-il que cet homme et cet enfant évoluent dans une société qui ne jamais se pose la question, ne dénonce et va débusquer ce qui se passe, en fait.
Enfin, personne ne lui demande non plus
cet aveuglement,
d'où sort cet enfant.
Il passe par ça aussi.
Où serait sa mère? Enfin, ben voilà, ces choses-là sont...
D'autant qu'il y a des signes dans ses dessins. À l'école, il y a des gens qui le regardent, qui lui parlent. Mais lui aussi s'est composé une espèce d'armure, donc c'est... Mais effectivement, ce qui est le plus étonnant, c'est quand même cette inconscience par rapport à, en réfléchissant un petit peu, il y a pas mal de gens qui pourraient s'interroger sur cet homme qui se balade avec des enfants, encore une fois, différents tous les 5 ans.
Mais chez elle, son œuvre est bien trop immense pour prétendre le faire. Mais au fond, chez elle, la question de la disparition de l'enfant, du rapt, de l'absence de l'enfant, est une question qui est toujours très importante, qui revient, et elle l'a traité de multiples façons, mais il faudrait regarder...
La transfiguration, le récent Mud Woman, ou Fille Noire, Fille Blanche, enfin il y a plein
Mud
de
Woman qui était très...
questions d'identité.
Il y a une part autobiographique dans Mud Woman qui est... mais toujours de cette façon, c'est-à-dire que ça soit des questions très personnelles, que ça soit des notions qui relèvent du fait divers, c'est le traitement qui est absolument remarquable, et remercions effectivement la traduction
Claude Seban,
qui nous permet de lire ces textes en français.
Extraordinaire, ils sont magnétiques.
Avec force, avec puissance. Moi, je serais curieux, peut-être que vous lisez directement dans la version originale, mais moi, je ne lis pas dans la version originale, mais je serais curieux de savoir ça. Parce que c'est magnifique.
Bon, la prochaine fois, on fait une dispute en anglais avec vous sur Joyce Carol Oates. Ouais. Mais en tout cas, on salue le travail de Claude Seban. Et saluer, encore la forme. Parce qu'il y a tout ce qu'on raconte. On a évoqué le début. Mais c'est vrai qu'elle arrive quand même toujours à boucler ses livres d'une façon souvent glaçante. En tout cas, très, très forte. On ne dira rien. Ouais. Mais n'empêche que, c'est ça, il y a le fond, la forme. Enfin, c'est...
Je crois que quelqu'un qui n'a pas lu ce texte, faut... bien dit, effectivement, de passer ce début qui paraît répétitif, en fait, qui n'est pas...
Ah, moi, je le trouve passionnant.
Oui, qui est tout à fait passionnant. De passer ça. Hein.
Oui. Non, je pense qu'on est attrapé dès ce début, même si on n'est pas coutumier.
Juste très rapidement, le paradoxe, c'est qu'on se dit, en le lisant, en le commençant, on n'est pas dans le gothique, c'est un vrai document, etc. Et finalement, on a l'impression, à la fin, d'avoir lu un conte noir, sauf que c'est la réalité. Et donc, que c'est très proche de la réalité, que ça fait peur.
Daddy Love, quel titre fait froid dans le dos quand on a lu le livre. Livre de Joyce Carol Oates, donc publié chez Philippe Réédition, dans une traduction remarquable, en effet, de Claude Seban.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure du livre de Benjamin Markowitz. Avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, le critique et écrivain Pierre Jourde. Et nous évoquerons aussi plus rapidement « Souviens-toi de moi comme ça » de Brett Anthony Johnston. Et « Les gens heureux n'ont pas d'histoire » d'Héloïse Lièvre. Du coup, les gens heureux sont rarement dans la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute par Antoine Guillaume. Enfin, ça arrive. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. C'est le premier coup de tonnerre de la rentrée littéraire. Pascal Quignard, qui publiait jusqu'à maintenant ses essais chez Grasset et ses romans chez Gallimard, passe dorénavant avec la totalité de son œuvre chez Grasset, a-t-on appris dans le journal du dimanche. Les Larmes, un roman sur l'origine du français, sera l'un des événements de la rentrée de septembre 2016. Dans la lignée de Tous les matins du monde et de Terrasse à Rome, deux de ses plus grands livres, l'auteur raconte l'histoire incarnée de Nitard. et de son frère jumeau Hartnid. Pour la ministre de la Culture, ce ne fut pas un coup de tonnerre, mais l'épreuve du feu, selon le Figaro, qui écrivait dès le 28 mars que Matignon voulait nommer à la tête de la Bibliothèque nationale de France Laurence Angel, l'ancienne directrice de cabinet d'Aurélie Filippetti au ministère de la Culture et compagne d'Aquilino Morel, ex-conseiller de François Hollande à l'Élysée. Or, la nouvelle ministre Audrey Azoulay avait d'autres candidats en tête. Il lui restait alors 2 jours pour convaincre Manuel Valls de la pertinence de son choix avant le Conseil des ministres du 30 mars qui devait nommer le successeur de Bruno Racine puisque son mandat s'achevait sans blague le 1er avril. Et puis rien, il a fallu attendre celui du 6 avril pour qu'effectivement le gouvernement sorte le nom de Laurence Angel de son chapeau. Une nomination qui s'est fait attendre, commente encore le lendemain le Figaro sous la plume d'Ariane Bavelier. François Hollande hésitait entre cette ancienne directrice de cabinet d'Aurélie Filippetti et Olivier Poivre d'Arvor, croit-elle savoir. Diplômée de l'ENA et de l'ENS, Madame Angel est aussi la compagne donc d'Aquilino Morel, ancien conseiller de François Hollande, qui a démissionné en 2014 et devait préparer un livre sur son passage houleux à l'Élysée. Est-ce toujours d'actualité, s'interroge le Quotidien. Quoi qu'il en soit, Laurence Angel est sincère et droite. C'est ainsi, rapporte Laurent Carpentier dans Le Monde, que Stéphane Martin, le président du musée du Quai Branly, définit Laurence Angel, nommée à la présidence de la BNF. C'est quelqu'un de pas tordu, qui a toujours essayé de faire les choses bien, jamais de propos excessifs, brutaux ou à l'emporte-pièce, ce qui est rare dans un milieu où on a l'habitude de balancer très fort. Les esprits chagrins se sont tus, assure le journaliste. La nomination de Laurence Angel a rendu anonyme ceux qui s'insurgeaient ces derniers jours contre la désignation possible d'une technocrate à la tête d'une institution qui nécessite une autorité intellectuelle telle qu'autrefois celle d'un André Michel ou d'un Emmanuel Leroy Ladurie. On a cherché des universitaires, regrette timidement un membre du conseil scientifique de la BNF. Il faut croire qu'il n'y en a plus de disponibles sur le marché. Stéphane Martin lui est content. Avec elle, confie ce collectionneur de livres, on peut parler d'Emmanuel Carrère comme de Huysmans. Elle a des opinions politiques qui, pour ne pas être les miennes, sont menées avec une profonde conviction. Et puis, elle a de la bouteille. Quand elle dirigeait le cabinet d'Aurélie Filippetti, la vraie ministre, c'était elle, ajoute perfidement un haut cadre de la rue de Valois. Aurélie Filippetti pouvait disparaître des jours entiers. Laurence Angel tenait la maison. Son livre fétiche, Don Quichotte, un roman magique qui dit beaucoup sur la liberté qu'apporte la lecture, même si cela ne se finit pas très bien, déclare-t-elle au Monde. Tout finit donc bien pour la BNF, sauf que cela aura donc pris bien du temps, comme s'en émouvait lui aussi le chroniqueur culture du quotidien Vespéral, Michel Guérin. Situation cocasse, écrivait-il le jour de la fin de mandat du précédent président. Le 2 avril, la BNF n'avait plus de patron, alors que la date de départ de Racine était connue depuis fort longtemps. L'Élysée, Matignon et le ministère de la Culture n'ont pas été fichus de se mettre d'accord sur un nom à temps. Tout le monde s'attendait à une nomination dans la foulée de l'arrivée d'Audrey Azoulay à la Culture le 11 février. Les semaines ont passé, les conseils des ministres aussi. On se disait qu'au pire, ce serait pour le 30 mars, 2 jours donc avant le départ de Monsieur Racine, et puis rien. Attendons le conseil du 6 avril, ce fut effectivement le bon. Un proche de François Hollande, pour justifier ce retard, rappelait que l'Élysée venait quand même de vivre une rude semaine avec l'abandon du projet de réforme constitutionnelle. Il ajoutait que la BNF pouvait bien vivre sans patron quelques jours. Ce n'est tout de même pas le chef d'état-major des armées. C'est vrai, c'est autre chose. C'est une maison qui a 5 siècles, qui raconte notre histoire et porte un récit universel. C'est la plus importante bibliothèque du monde, avec la British Library à Londres et la Bibliothèque du Congrès à Washington. C'est le plus gros établissement culturel de France et de loin, avec 2400 personnes qui l'animent et 200 millions d'euros qui le font vivre, bien plus gros que le Louvre ou l'Opéra de Paris. C'est encore une maison qui a 2 énormes bâtiments où il faut tenir le cap face à quelques 200 conservateurs qui ont l'érudition en bataille et des syndicats qui ont la revendication vive. Une maison, enfin, qui doit redéfinir son identité au moment où le numérique distend le lien entre le public et l'imprimé. Donc la BNF pouvait se passer de patron quelques jours. C'est désastreux pour le symbole, s'indigne Michel Guérin, et un signe piteux envoyé au personnel. Oui, c'est grave, lâche un éminent historien, membre du conseil scientifique de la BNF. Sans doute, les politiques ont-ils mieux à faire? Nous sommes en effet dans la logique d'un pouvoir socialiste qui, depuis qu'il est aux affaires, n'a pas fait de la culture une priorité et a enquillé 3 ministres en moins de 4 ans. Et puis Hollande fait du hollandisme. Hésiter, ne pas trancher, attendre le dernier moment, quitte à être hors délai. On voudrait fragiliser le futur patron de la BNF, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. On souhaite alors Laurence Angèle un excellent mandat.
Bien, alors, après cette revue de presse, voilà, bon, un salut à notre ancien directeur. Il vaut mieux être directeur de cabinet d'émission de la culture, peut-être pour après poursuivre une bonne carrière que directeur de France Culture, allez savoir. On verra pour les prochains et les précédents. Laurence Angèle, vous avez une opinion, Daniel Martin, sur cette nomination?
Écoutez, je sais que elle a la réputation d'être quelqu'un de très sérieux, donc attendons et voyons, parce qu'effectivement le dossier paraît chargé. Oui. Je me souviens qu'à l'époque où elle a été nommée conseiller au livre, qui est une création de poste, on a dit que c'est un poste qu'elle avait créé à l'époque où elle était avec
Aurélie Filippetti,
la directrice de cabinet d'Aurélie Filippetti. Donc, on avait dit à l'époque qu'elle avait préparé son avenir. Bon, on a dit beaucoup de choses à propos de cette personne. Je ne sais pas, la BNF est un établissement qui est quand même énorme, très important. J'espère que la personne qui en prend la tête a effectivement tout à fait les moyens d'assurer. Mais après, moi, c'est une personne que je n'ai jamais côtoyée, donc je ne peux rien dire. J'espère seulement, voilà.
Oui, parce que c'est une grande et belle maison, cette BNF. Philippe Chevillé ?
C'est bien dit, c'est bien dit. Et puis la revue de presse a tout dit aussi. Simplement, oui, on peut revenir sur la question de... Il y aurait peut-être moins de polémiques si on sentait un exécutif et un gouvernement plus investi dans la culture. On a eu quand même pas mal d'exemples de nominations laborieuses où on a l'impression que c'est plus pour faire des coups qu'en connaissant vraiment la qualité des gens, leur qualité artistique, même s'il y a des gens très bien qui ont été nommés. On attend à chaque fois, on a attendu beaucoup pour le Théâtre de la Colline, par exemple.
C'est enfin, oui, on a attendu vraiment longtemps. Mais... Pour la mission de Mojo, bon, il n'y avait pas une question de date, mais il y avait un poste vacant.
Un poste vacant tout de même, et puis des nominations un petit peu ratées, bon, voilà. Donc, on a l'impression à chaque fois qu'il manque cette... Bon, ils aiment bien la culture, mais ils connaissent pas très bien. Donc, bon, encore une fois, espérons que c'est un bon choix et on lui souhaite bonne chance.
Bah, oui, évidemment qu'on lui souhaite bonne chance. Daniel Martin.
Cette nomination arrive après... nomination de la nouvelle ministre de la Culture, autour nomination sur laquelle il y a eu quand même beaucoup de rumeurs, en particulier qu'elle était à ce poste parce qu'un certain nombre de personnes avaient refusé le poste, qui est quand même extrêmement rare que des gens refusent un poste comme celui-ci, de ministre.
Ben oui, j'ai l'impression qu'ils cherchent beaucoup.
Donc effectivement, sur
ce qui met pas en cause les gens qui sont finalement nommés.
Que souligne Philippe, je suis assez d'accord, mais... c'est vrai qu'on a une époque où la rumeur, le on-dit se propage très vite. Donc c'est pour ça que je me contente de dire, espérons qu'on ait quelqu'un de solide à la tête de cette
établissement. On peut le souhaiter pour cette maison et puis pour elle. Hein. C'est un sacré mandat, en tout cas, qu'elle a entre ses mains, Laurence Angèle. Et nous verrons. On va continuer à parler de livres qui finiront ou qui sont déjà à la Bibliothèque nationale de France. Souviens-toi de moi comme ça, de Brett Anthony Johnston, chez Albin Michel, un auteur que je ne connais pas. Alors, Philippe Chevillé va tout nous dire.
Alors, c'est un premier roman.
Ah, ce qui explique que je ne connaisse pas, ça me rassure un tout petit peu.
C'est un premier roman d'un professeur en creative writing, donc vous imaginez que le livre est assez construit. Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ça s'adresse encore une fois aux insomniaques, parce que comme le livre de Joyce Carol Oates est assez bref, on peut dans la deuxième partie de la nuit lire ce livre qui est tout aussi palpitant, haletant et tout aussi troublant, puisqu'en fait c'est une histoire très proche. Hein. Là, il s'agit d'un garçon de 11 ans, Justin, qui a été enlevé et qui va réapparaître 4 ans après. Et donc on va voir là pratiquement les mêmes thématiques qui sont exploitées, mais de façon très différente, parce que là on a finalement pratiquement rien sur le kidnapping. On connaît le nom du ravisseur, mais on évite, en fait on reste un peu dans le flou en ce qui concerne ce qui est arrivé à ce garçon. On imagine les pires choses, mais une fois que le ravisseur est arrêté, une fois qu'il est rendu à sa famille, on n'a pas vraiment d'explication très claire de ce qui s'est passé. Et en revanche, le livre s'attache à nous montrer toute la destruction et la tentative de reconstruction de la famille. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que il y a vraiment des portraits psychologiques qui sont absolument admirables de tous les personnages, puisque dans la première partie en fait du livre, il n'est pas encore revenu, on voit que tout le monde est parti un petit peu en vrille. Il y a le père qui a une maîtresse, la mère qui s'occupe de poissons d'un dauphin malade, parce que tout se passe dans une petite ville portuaire du Texas. Le petit frère qui grandit, alors il a une petite amie avec qui ça se passe plus ou moins bien, et puis surtout il passe son temps à faire du skateboard. Et il y a un moment magnifique dans le livre, c'est quand évidemment l'enfant réapparaît. D'abord les parents la mère veut pas y aller, il y en a marre de voir des enfants qui sont pas les nôtres, ou dont nous annoncer la mort d'enfants quand elle constate que c'est son fils, tout à coup une espèce d'élan d'euphorie, et il y a des pages absolument remarquables où tout le monde dans la famille sait pertinemment que ça va pas durer, mais il y a une joie incroyable. Et après, on voit comment tout se redétruit. Et puis cette tentative quand même pour raccommoder les fils, sachant qu'à un moment donné, le ravisseur, en attendant son procès, est libéré sous caution. Et qu'à ce moment-là, la tentation de la vengeance, de la loi du talion, se fait jour, et on se demande justement à la fin du livre exactement ce qui va se passer, si c'est un livre qui va appeler justement à la vengeance, et c'est pas du tout le cas. Donc c'est un livre humaniste, c'est un peu c'est pas que le livre de Joyce Carol soit pas humaniste, mais simplement c'est dans sa version assez soft et assez plutôt optimiste, disons, en mettant quand même des guillemets, parce que tout ne se termine pas bien. D'ailleurs, je vous dis pas la fin.
Bah non.
Absolument pas. Mais il y a une volonté absolument acharnée dans ce livre de l'auteur et de ses personnages d'essayer de remonter la pente, alors que ça paraît impossible, c'est une pente glissante. Et ses portraits sont remarquablement faits. Et enfin, pour terminer, la construction, puisqu'il faut quand même en parler. Évidemment très habile, on a des flashbacks qui sont assez fins, c'est construit comme un roman noir, et on a surtout un petit prologue au début qui peut nous emmener dans plein de directions, et qui fait qu'on a une espèce de menace pendant tout le livre, on craint la fin, et la fin c'est pas forcément ce qu'on attendait. Donc voilà, je vous recommande ce livre qui est un premier roman très bien écrit et vraiment touchant et troublant comme celui de Joyce Carol Oates.
Et alors, la traduction ?
Et la traduction est très bonne aussi. Et très bonne, donc c'est de France Camus Pichon, qui traduit mal de livres, je crois, chez Albin Michel.
Très bonne traductrice, en effet, France Camus Pichon. Le livre s'appelle « Souviens-toi de moi comme ça », Brett Anthony Johnston. Pas de traduction, a priori, Loïse Lièvre, que j'avoue non plus ne pas connaître, pardon. « Les gens heureux n'ont pas d'histoire », chez Jean-Claude Lattès, Daniel Martin.
Oui. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Alors, c'est une des phrases prononcées par Simone de Beauvoir, comme quoi, je suppose que des milliers de gens ont dit cette phrase. Et c'est tout le pari du livre, je trouve, c'est de travailler sur une forme de banalité de l'intime. Le principe, Héloïse Lève est née en 73. Depuis 73 jusqu'à maintenant, elle prend une photo d'elle, qui est reproduite dans le livre, une photo d'elle pour chaque chapitre. Et à chaque fois, elle dit ce qu'a été sa vie. Gamine, classe moyenne française, milieu sans problème, vie sans histoire, à part les événements qui marquent toute vie, premier amour, mariage, etc., etc. Ce qui fait qu'on pourrait tomber dans une forme de banalité absolue. Et ce livre, je trouve, a un charme fou, parce que plutôt que d'être uniquement extrêmement personnel par l'écriture, elle ouvre le débat, et je suis persuadé que c'est un livre qui peut passionner énormément de lecteurs, de lectrices, peut-être plus que de lecteurs d'ailleurs. Il y a un tempérament d'écriture qui est absolument pas tapageur, qui est très simple. Donc voyons, on n'est pas du tout chez Annie Arnaud, il n'y a pas cette lecture politique du temps, on n'est pas chez Sophie Calle. On est dans autre chose, on est dans du Héloïse Lièvre. Et je trouve que le vrai pari, c'est ça, c'est d'oser la banalité. Je vous lis juste un passage que je trouve assez représentatif. Elle parle d'une métamorphose, cette métamorphose des couples qui est à la fois celle de l'accomplissement et de l'usure ordinaire. Avoir un enfant, faire un enfant, deviendrait l'aboutissement naturel, non pas une évidence, mais une fin commune. Alors, on est tout à fait dans l'ordinaire, et on voit très bien que tout ça est travaillé par autre chose. Et c'est-à-dire que sous l'ordinaire, il se cache une pensée, une réflexion, peut-être une poétique. Et c'est un livre qui m'a séduit pour ça. Voilà.
Bah voilà, c'est une très bonne raison.
C'est chez Jean-Claude Lattès, et j'étais content de parler de Jean-Claude Lattès, qui n'est pas l'éditeur dont on parle le plus dans cette émission.
C'est vrai, mais voilà, chez qui sortent de bons livres, comme celui d'Héloïse Lièvre, pardon, « Les gens heureux n'ont pas d'histoire », que vous nous avez donné envie de lire, Daniel. Dans quelques minutes, on va voir si on va donner envie de lire Benjamin Markowitz. Le livre s'appelle « Il y a mieux à vivre », il est publié chez Christian Bourgois. Avant cela, nous allons retrouver l'invité l'actualité de la dispute. Cette semaine, nous l'avons passé, c'est le dernier rendez-vous ce soir, avec le critique et écrivain Pierre Jourde, dont on peut bien sûr retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Pierre Jourde, il fallait bien qu'on en vienne à parler de littérature. Il se trouve que chez nous, c'est le cinquième jour de la semaine, vendredi, que nous parlons de livres. Alors, aborder cela avec vous, évidemment, c'est aborder le territoire, mais comme les autres, hein, de territoire de la passion.
Oh oui.
Mais la passion, elle est dans tous ses effets, ses affects.
Précisément, je parlais l'autre jour avec Jean-Marie Laclaftine, qui m'a dit qu'un des plus grands deuils de sa vie, c'était la mort de Porthos. Chez Dumas. Et je souscrirais assez à ça. Les lectures d'enfance sont parfois indépassables. Et comment se remettre de la petite fille aux allumettes d'Andersen, pour commencer, ou de cette initiation à l'interrogation morale, à la remise en cause de soi que sont les contes de Noël de Dickens. Le personnage de Scrooge m'a hanté pendant très longtemps, je dois dire. Et ce sont des choses très simples. Très très simples. Quand j'étais gamin, avec mon frère, on attendait comme le Messie. Je ne sais plus quel jour ça paraissait, d'ailleurs, mais le jour où le facteur a porté Pilote. Et on se jetait, évidemment, sur les bandes dessinées de Gottlieb, sur les bandes dessinées de Mandrika. Ça forme aussi un imaginaire, certainement. Bon, Gottlieb a été beaucoup influencé par les Américains, bien entendu, mais voilà. Et depuis, je ne m'en suis pas remis non plus. C'est-à-dire que j'étais pendant longtemps un grand lecteur, notamment de Fluide glacial, et je trouve qu'il y a des gens dans Fluide glacial qui sont à mettre à la hauteur de nos grands écrivains. L'univers de Cadio, par exemple, c'est un univers passionnant, c'est une espèce d'humour un peu frappadingue, ses trouvailles. Si vous lisez Gossens, le dessin en plus, c'est exactement la même chose. C'est fascinant. Je connais personne qui pose des questions logiques de manière plus forte que Gossens. Ou les incroyables délires verbaux et iconographiques d'Edica, par exemple. J'avoue qu'en littérature, je continue à lire aussi les antiques. Pas seulement les contemporains, c'est-à-dire que j'ai toujours sur mon lit, enfin à côté de mon lit plutôt, il y a Polybe et il y a Plutarque. C'est en fait ça que je relis avec le plus de plaisir. Les vies des hommes illustres, la vie du dernier des Grecs par Polybe, Aratos, qui lutte pour que les cités grecques continuent à survivre contre le roi de Macédoine. Ce sont des textes immortels, je crois.
Et qui vous console du présent ?
Pas du tout. Le présent est sans doute littérairement un des plus riches que nous ayons connus. Il se fait des choses aujourd'hui qui sont passionnantes. Je considère que Valère de Varida est un des plus grands écrivains de notre histoire littéraire. Je considère que quelqu'un comme Chevillard est à mettre sur le même rang que Lautréamont, que Mallarmé. Et puis on le voit déjà et on s'en rendra compte très très vite. Voilà, nous avons une époque passionnante. Comme on est noyé dans des quantités de choses, on ne s'en aperçoit pas. Comme parmi ces quantités de choses, beaucoup moins intéressantes occupent le devant de la scène, mais c'est pas nouveau, hein. C'était pareil au 19e siècle, donc faut pas, d'un côté, faut pas s'inquiéter, d'un autre côté, il faut pas hésiter à le dire. Voilà. Disons-le. Ouais. Et en poésie, il se passe beaucoup de choses. La poésie est plus vivante qu'elle ne l'a jamais été. André Velter, qui s'occupe du Printemps des Poètes, le disait récemment, et je pense qu'il a raison. Le problème, là encore, c'est pas dans la création, c'est dans la transmission. C'est-à-dire que la littérature est vivante, la poésie est vivante, mais dans quelle mesure nos moyens critiques en rendent compte, ça, c'est un autre problème. Et c'est là, je crois, qu'il faudrait agir un peu plus. Je reste très ancré dans la littérature de la fin du 19e siècle. C'est là-dessus que j'ai fait mon habilitation à diriger des recherches, ce qui ne nous rajeunit pas non plus, dans les années 90. C'est-à-dire que, là encore, la poésie, pour moi, a atteint des sommets, en France, en tout cas, entre 1850 et 1900. Elle a fait ce que nous avons sans doute eu de plus beau, les contre-rimes de Toulet. C'est-à-dire, trois vers de Toulet dans les contre-rimes suffisent à vous bouleverser avec très très peu de moyens. Les rondelles pour après de Tristan Corbière. Là encore, des poèmes à la fois très simples et écrits avec une langue tellement moderne que elle est même plus moderne que la langue du 21e siècle, quasiment tellement elle est inventive. Les poèmes de La Forgue. Tout poème qui me fascine parce qu'ils disent l'extrême douleur, et ce sont des gens qui sont morts jeunes, qui savaient qu'ils allaient mourir, et qui en parle toujours avec une espèce d'humour désespéré qui, moi, me touche au plus profond. C'est-à-dire, en quelque sorte, leur idée, c'est que, voilà, nous allons aller à l'émotion, mais si je fais l'intéressant avec l'émotion, c'est-à-dire si je reste dans le lyrisme pur, alors je tire quelques bénéfices symboliques de cette émotion. Je dois donc, par un dernier geste de don ou d'abandon, m'en enlever le bénéfice en ironisant encore là-dessus. Et ça, c'est magnifique. Et en même temps, alors dans un tout autre spectre de l'émotion, je relis sans arrêt des gens comme Charles Cros, qui écrit des choses mais totalement délirantes, avec toujours cet air, ou comme Alphonse Allais. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Umberto Eco a fondé certaines de ses analyses sémiologiques sur Alphonse Allais, parce que non seulement c'était un plaisantin, mais en plus c'était un inventeur de formes. Là, je crois qu'il y a une mine inépuisable, de littérairement parlant.
Je vous suis dans cette mine. Absolument, Pierre Jourde. Un dernier plaisir très contemporain, parce que vous qui avez épluché des années de rentrée littéraire, 40 ans ou 30 ans, je ne sais plus, c'était dans un de vos ouvrages, dans les nouveautés, est-ce que vous pourriez recommander ? Il y a un Chevillard il n'y a pas très longtemps, on en a parlé ici bien sûr.
Pas tout à fait une nouveauté, parce que ça date, si je me souviens bien, de l'année dernière.
C'est très bien, ce sera peut-être en poche, mais j'ai une chance.
Oui, j'avais été extrêmement impressionné par La Condition pavillonnaire de Sophie Divry, qui consiste simplement...
Privé Plaire l'année dernière.
Oui, Privé Plaire. Bon, c'est un peu une vie de Maupassant, c'est-à-dire ça raconte une vie ordinaire d'aujourd'hui, de la naissance à la mort avec ses passages obligés. Je connais peu de choses qui soient plus inquiétantes et plus bouleversantes en même temps, mais dit sur un ton froid et neutre, c'est qui est le ton parfait en fait.
Voilà pour le dernier conseil de cette semaine, bien très riche, ce qui ne m'étonnait pas. Passez avec vous, merci Pierre Jourde.
Merci.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le vendredi soir à la littérature avec le roman de l'Américain Bernard Markowitz, Il y a mieux à vivre, publié chez Christian Bourgois dans une traduction de Catherine Richard Mass. L'écrivain britannique a grandi au Texas, à Londres, à Berlin. Il a déjà vu 3 de ses romans publiés chez Bourgois. C'était une trilogie consacrée à Lord Byron. Avec ce nouveau livre, là, on est retour au 21e siècle et précisément au début de la présidence Obama. L'Amérique, comme le monde, mais l'Amérique d'abord, est frappée de plein fouet par la crise des subprimes. Détroit, la ville de Détroit, est en faillite. Et c'est dans cette ville qu'on va suivre Greg Marnier, dit Marnie. Alors animé d'abord d'un paquet d'argent et des meilleures intentions pour tenter d'inventer une nouvelle forme de vivre ensemble, initier un renouvellement urbain dans cette ville sinistrée. Bien sûr, sinon il n'y aurait pas de roman, les choses ne vont pas être simples et Gary va trouver sa route, sur sa route, bien des obstacles. Said you got tired of the same old rock and roll. You started a new sunset life with a lot more soul. Well, I know you spend a lot of time alone in your head. Remember what you said. I never thought you'd be so easily. Detroit City par Texas, là on est vraiment effectivement dans un choix pertinent au niveau géographique, en tout cas pour cette odeur néo-Texas et ce personnage aussi qui arrive à Détroit. C'est Daniel Martin qui a soumis ce livre au sommaire de la dispute, c'est donc lui qui l'ouvre.
Oui, moi c'est un livre qui m'a totalement emballé pour différentes raisons. La première, soulignons-le une fois de plus, la traduction remarquable. Deuxième traducteur remarquable de l'émission, c'est bien.
Et, Catherine Richard Mass et France Camus Pichon est aussi une traductrice remarquable.
J'ai été énormément intéressé par, par ce qui est dit dans ce livre. Alors, on peut considérer que c'est très américain, mais je trouve que la thématique est beaucoup plus large que ça. On sait que on vit en un temps où les gens désespèrent de la classe politique. Alors là, on est quelques années plus tôt, on est en 2009. Et toute cette région du nord-est des États-Unis qui a été en partie ruinée, et beaucoup de personnes sont parties, laissant des quartiers entiers déserts. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est ce personnage qui arrive, qui s'appelle Marnie, qui est vraiment le personnage tout à fait ordinaire, moyen, qui ne fait rien à part passer les diplômes qu'il faut, avoir un petit boulot et prêt à avoir une vie qui s'ennuie. Et il retrouve un ami d'enfance qui, lui, a gagné un argent fou dans les startups, qui s'appelle Robert James, et... ce type est très impliqué dans la vie politique. Il a soutenu Hillary Clinton et finalement Obama est élu. Et il continue le combat à sa façon, c'est-à-dire de redonner vie à ces villes. Là, il s'agit de Détroit. Donc de racheter des maisons, d'inviter des gens à venir s'installer, redonner vie à ces quartiers. Alors l'intention est extrêmement généreuse et très vite se pose la question de savoir quelles sont les nouvelles méthodes qui vont être mises en œuvre. Est-ce que les nouvelles méthodes ne vont pas être semblables et assez proches des anciennes méthodes qui ont provoqué elles-mêmes la ruine ? Il y a tout un débat là qui est intéressant. Ça, c'est un premier débat sur les méthodes politiques. L'autre débat, il est que dans ces villes restent les populations les plus démunies et en particulier une population noire qui est très importante. Ces gens qui sont dans une grande misère et qui, au fond, ont appris à se débrouiller avec ça, voient arriver une population plutôt jeune, plutôt blanche, plutôt avec de l'argent, qui leur disent en gros fais ce que je veux,
faire comme ça.
Donc il y a une friction qui est tout à fait normale entre les populations. Mais il y a dans tout ce débat, moi, vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément et qui échappe aux politiques. J'ai l'impression que c'est un livre qui ne vous a pas enthousiasmé du tout.
Bah, attendez, on n'a pas ouvert la bouche, Daniel, on vous écoute. Philippe Chevillier.
Je suis impatient.
Voilà. Alors on donne la parole à Philippe tout de suite.
Daniel Martin, vous vous trompez. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi. D'ailleurs, pratiquement pour les mêmes raisons que vous, on se dispute pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Bon, d'abord sur le plan d'un littéraire, je trouve que c'est intéressant de pas être dans le, justement, on n'est pas dans la construction, on n'est pas dans le page turner. Je l'aurais dit une fois dans l'émission.
Vous n'avez pas le droit aux anglicismes, hein, Philippe, c'est mal.
Et on a une construction assez linéaire, il y a beaucoup de personnages qui débarquent. Parfois d'ailleurs, on en retrouve à certaines pages, on dit, oh là, celui-là,
c'était qui déjà
ce qu'il fait, un voisin lointain. Mais on va directement dans le cœur de cette histoire. Et on a une incroyable vision de l'Amérique d'Obama avec toutes ses contradictions. Je trouve que les personnages sont très bien décrits avec une... précision presque journalistique. Il y a des scènes qui sont littérairement et hallucinantes, comme celle où le héros tout d'un coup se retrouve à une espèce de je crois que c'est les de grands donateurs qui sont invités à une fête et Obama vient, il se met à jouer au basket, hein. Une des passions d'ailleurs de l'auteur. Et puis, ce que je trouve fascinant aussi, c'est cette façon cash d'aborder les rapports justement entre les noirs et les blancs. Souvent, on a dans les livres, alors on a le méchant blanc, peut-être un méchant noir, et puis il y en a un gentil au milieu. Là, on a des gens qui sont dans la contradiction extrême. Tous ces blancs qui arrivent de classe moyenne sont plutôt pas racistes a priori, mais enfin, ça va vite à se déclencher dès qu'ils sont mis en contact avec justement les problèmes de ces noirs qui sont... Parce qu'il y a quelques noirs qui sont restés dans le quartier, c'est vraiment les derniers Mohicans. Et face à ça, la présentation aussi du combat noir n'est pas non plus idyllique, c'est pas des personnages qui sont non plus forcément ultra sympathiques. Donc on a vraiment... Et Marnie, il est au milieu, il essaie effectivement, c'est un personnage qui n'a pas vécu grand chose, qui essaye un peu de relier toutes ces contradictions. Et ça, je trouve ça assez fascinant. En plus, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que même dans ce cadre de vouloir refonder un quartier, de rénover une ville, de la faire revivre, les idéaux sont quand même extrêmement pauvres, assez limités. Ils veulent faire un quartier sympathique, bien s'entendre entre voisins. On voit que tous les idéaux des années 60-70, l'Amérique, elle les a plus. C'est pas des personnages qui sont tellement... Il n'y a aucun personnage qui soit vraiment porteur de grands idéaux. Néanmoins, ils essayent de bricoler quelque chose qui fonctionne. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que finalement, le livre Même si à la fin on a effectivement ces problèmes de corruption, de tension raciale qui viennent vraiment brouiller tout et gripper la mécanique, l'auteur n'a pas une vision complètement non plus désespérée. Il y a une espèce de volonté quand même de dire bon, ça marche pas très bien, mais il faut continuer à avancer, il faut continuer à bouger. Et donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment un livre qui politiquement surtout est vraiment passionnant et fait vraiment réfléchir.
Oui, alors je rajoutais sociologiquement, enfin parce que moi ce qui m'a manqué, parce que j'ai effectivement une réserve à Daniel Martin, c'est enfin là où pour moi ça pêche, c'est sur l'écriture. Alors la traduction peut être bonne, et n'en pas douter, c'est un bon traducteur donc qui la signe, mais voilà, j'ai pas, comme chez Joyce Carol Oates, j'ai pas un style qui me porte, j'ai une succession de scènes, voilà, beaucoup de dialogues comme on en voit beaucoup dans les romans américains. Qui amènent de l'action, des descriptions assez simples. Je trouve pas que ce soit mal écrit, je trouve que c'est pas très écrit. C'est un peu stupide ce que je viens de dire, mais quand même, il n'y a pas un style. Mais vous êtes bien bon. Il y a juste un truc, mais qui est aussi un truc, mais que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, tous les débuts de chapitres engage tout de suite l'action. On a l'impression d'être au milieu d'une phrase à chaque fois. Donc, bon, j'imagine que c'est un truc qu'il a, Benjamin Markowitz, mais qui fonctionne bien parce que c'est quand même, on est dans quelque chose qui doit se faire, qu'on est en train de faire, qu'on essaye de faire. Et ça, là, je trouve qu'il y a une, pour le coup, la dynamique est stylistiquement plutôt bien rendue. Mais voilà, j'étais un peu en. J'étais intéressé par ce que je lisais, mais pas transporté.
Je ne disputerai pas sur ces questions avec vous, mais moi, je crois que ce qui m'a énormément.
Mais pour quelle raison? Parce que vous êtes d'accord ou parce que vous n'êtes pas d'accord?
Oui, au fond.
On n'est pas emporté par la langue. D'accord.
Oui, j'ai trouvé que c'est quelque chose qui était agréable à lire, qui était très bien restitué, qui avait du rythme, etc. Mais effectivement.
C'est le propos qui nous intéresse dans ce livre.
Moi, c'est le propos qui m'intéresse, c'est-à-dire que ça résonne complètement.
On ne se dit plus.
Avec ce qu'on vit tout de suite.
C'est-à-dire,
tous ces gens qui sont sur les places. On commence à dire que les gens qui sont sur les places sont plutôt originaires d'une classe moyenne, au fond. Ce qui pose un problème. Et c'est, la grande question, c'est comment faire société, comment faire ça. Et comment faire société quand, effectivement, les grands partis, les grandes institutions ne sont pas là pour organiser. Or, on est justement dans le deuil et la déception de ça. Donc comment rebâtir le rebâtir là est beaucoup plus complet que simplement rebâtir, redonner vie à un quartier, à une maison. Il est effectivement au niveau d'une société où on va, où on est parti. Moi c'est surtout ça qui m'a
Absolument, c'est un sujet essentiel de notre temps, ça c'est certain.
Complètement intéressé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer construire quelque chose en laissant d'emblée de côté un certain nombre de personnes par exemple. Bon. Surtout laisser de côté les personnes qu'on est censé aider. Enfin bon, la contradiction, elle est là. Et je trouve que ce livre, de ce côté-là, est très très bien. Ouais, en plus, je ne connaissais pas du tout Benjamin Markowitz, dont plusieurs de mes amis m'ont dit avoir lu la trilogie byronienne, en disant que c'était remarquable. Mais moi, franchement, je ne l'ai pas vu passer, cette trilogie.
Moi non plus, mais c'est vrai que l'édition Christian Bourgois publie beaucoup de bons livres, beaucoup, de bons livres. Alors on ne peut pas effectivement tous les lire.
Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut se procurer encore. Et puis j'ai l'impression que c'est très très sévère sur Byron, hein, la trilogie.
Je ne sais pas, je n'ai pas de lumière sur la trilogie.
Le premier chapitre, Imposture, c'est comment Byron s'empare du livre d'un de ses employés et prétend que c'est le sien. La deuxième, c'est sur son mariage, lui, du côté de sa femme.
Ouais.
C'est un drame total.
Ah oui, ça c'est, on
et
peut l'imaginer.
Et le troisième, je réserve à chacun le plaisir de découvrir. Mais c'est vrai que s'attaquer... Enfin, Byron passe pour une forme de grands noms, de grands statuts, de personnes qui a agi aussi bien politiquement que poétiquement. Et là, la statue, à mon avis, elle est un peu par terre.
Donc il n'a pas peur d'affronter des vrais grands sujets. Retour quand même à Il y a mieux à vivre, parce que c'est le livre qui est en dispute ce jour, Philippe Chevillier.
Alors, moi, je veux bien répondre sur le style. Moi, ça m'a fait penser en fait au récit de nouveau journalisme des années 70. Alors, pas le Tom Wolfe d'aujourd'hui qui en fait fait un peu des scénarios et essaie de faire du style. Justement, on est on a vraiment l'impression, c'est vraiment hyper réaliste, quoi. On est dans ces gens qui avancent qu'à moitié, et encore une fois, la scène, par exemple, avec la partie de basket avec Obama, si elle était racontée avec un peu plus de style, deviendrait quelque chose d'un peu trop fantasmagorique ou un peu appuyé. Là, on est vraiment dedans. Et je trouve que, par exemple, le portrait qui nous est fait d'Obama en quelques phrases, en quelques mots, me paraît très juste par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sait de lui. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'a pas trop gêné. Et encore une fois, cette espèce d'expérience sociale qu'on essaie de mener, pas seulement en Amérique, mais partout, on se dit comment revitaliser des quartiers, des villes.
C'est une question qui se pose dans le monde entier.
Dans le monde entier, c'est vraiment passionnant. Puis accessoirement, finalement, il y a tout est dans tout parce qu'on retrouve la ville de Detroit de Joyce Carol Oates. Voilà.
Ben oui, ben tout ça est parfait.
Mais il serait intéressant de savoir dans quelles conditions il a écrit ce livre, parce que je ne sais pas du tout. S'il a été témoin vraiment de ça, si ce sont des faits rapportés, parce que lui, il vit aux États-Unis, il vit à Londres. Je ne sais pas du tout.
Ben, parce j'imagine que... mal qu'il ne soit pas allé sur place, moi, et rencontrer des gens, enfin, se nourrissant pour ce livre, mais j'avoue
que c'est la question de journalisme.
Ouais. Bon, mais écoutez, on va poursuivre l'enquête.
Parce que, à la différence de ce fameux journaliste des années 70, qui moi m'agace toujours un peu, parce que je trouve ça un peu pâteux, un peu nombriliste, etc. Là, on n'est pas, on peut pas dire que ce soit pâteux ni nombriliste.
Non,
du tout.
C'est beaucoup plus alerte et beaucoup plus ouvert que.
Non, mais au début, les premiers articles, les longs articles étaient vraiment bien, je trouve.
Mais on n'était pas nés, monsieur.
Ouais, mais il y a des recueils qui existent.
Bon, lisez les recueils, mais lisez aussi, ma réserve était vraiment juste pour relancer le débat, vous l'avez bien compris. Mais, j'ai trouvé grand intérêt à ce livre de Bernard Markowitz, Il y a mieux à vivre, publié aux éditions Christian Bourgois dans une traduction de Catherine Richard Mass.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu d'hier au soir. D'abord, Antoine Guillaume.
Vous avez gagné des invitations pour le film Voici le temps des assassins de Julien Duvivier, en magnifique version restaurée au cinéma. Je vous avais demandé où se situe le restaurant tenu par Jean Gabin dans le film. Et comme s'en souvient Daniel Martin, c'est rue Berger, dans le quartier des Halles, à Paris.
Des vraies Halles de l'époque. C'est un film d'une noirceur. Ça va bien avec Joyce Carol Oates. Tiens. Ce soir, on fait gagner, c'est beaucoup plus glamour, hein, invitation pour aller assister au 31e Festival International de Mode et de Photographie à Hyères. Ça se passera du 21 au 25 avril dans la magnifique Villa Noailles. Quelle est la question, Antoine ?
Quel est le nom du personnage de mannequin imaginé pour son premier film de fiction par William Klein, un des exposés de ce festival ?
Oh, j'ai la réponse. Mais vous nous la donnez avec vos coordonnées postales, ne les oubliez pas. Et vous nous envoyez tout ça par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Daniel Martin, Philippe Chevillier et Antoine Guillaume d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez aussi nous réécouter, podcaster nos émissions. Un site sur lequel vous pouvez nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillaume, Flora Isidore et Virginie Leduo. Prise de son assurée ce soir par Stéphane Desmonts, réalisation Daniel Finot. Je vous retrouve lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Marie-Josée Sirache et Philippe Chevillier. À notre affiche Le Monde d'hier, d'après Stéphane Zweig. C'est une mise en scène de Patrick Pinault et Jérôme Kircher, joué par ce dernier au Théâtre des Mathurins. Et puis nous parlerons de Goujon Folichon, cabaret de maison close, un spectacle mis en scène par Caroline Loeb au Théâtre du Marais. Je passerai un coup de fil au chorégraphe Philippe Lorenzo pour sa création Homo Furins à la scène nationale de Bourges. Nous retrouverons Antoine Guillaume pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix de la plasticienne Orlan, invitée de la dispute la semaine prochaine. Il y aura bien sûr un nouveau cadeau à gagner. Tout ça c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15 hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.